Quel pianiste, Misty, un extrait de Misty par le grand Oliver Jones qui nous a quittés. J'étais en train de regarder Bonsoir, bonsoir hier, animé en direct par Jean-Sébastien Girard qui nous a annoncé la triste nouvelle, Oliver Jones qui était malade et qui s'est éteint à l'âge de 91 ans. On y reviendra tout au cours de l'émission avec des pièces jouées au piano par ce grand du jazz, Oliver Jones, et puis je lirai entre autres un hommage. Il y a plein de gens qui rendent hommage à cet homme extrêmement gentil et cet homme aussi qui jouait du piano comme pas un, un magicien du piano. Alors, Yvan, vous êtes au bout du fil. Oliver Jones, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Pour moi, ça évoque la porte d'entrée pour le jazz.
Ah, wow!
Je suis pas un amateur particulier de cette musique, mais quand arrive l'été, quand arrive le festival, pour moi, Oliver Jones, ça représente ce côté festif autour de cette musique-là. Et ça fait partie de mes étés maintenant, ce festival, cette musique. Et Oliver Jones.
Oliver Jones, qui aimait beaucoup le Festival international de jazz de Montréal et le Festival international de jazz, aimait aussi beaucoup Oliver Jones parce qu'il a présenté beaucoup de spectacles dans toutes les configurations possibles et impossibles, en trio avec son idole Oscar Peterson. Il a accompagné aussi des artistes populaires comme Ginette Reno. Mathieu?
Il y a certaines pièces où j'ai l'impression qu'il a quatre bras.
Ah oui, hein?
C'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, on va en faire jouer une tout à l'heure que vous avez choisie, où j'ai l'impression qu'ils sont 12 derrière le clavier.
On parle beaucoup de sa virtuosité, de sa musicalité et aussi de sa bonté et de son humour. Oliver Jones qui nous a quittés et dont on se souviendra longtemps, longtemps, longtemps. Oliver Jones dans ce grand classique « Somewhere Over the Rainbow ». Alors, au menu du jour, j'aurai la joie de recevoir l'autrice, journaliste aussi, Catherine Lafrance, qui nous propose son plus récent roman, roman policier, la quatrième enquête du journaliste Michel Duquesne, « L'été de tous les feux ». Alors, c'est on ne peut plus d'actualité. Et puis, il y a Yvan, à qui on a parlé à propos d'Oliver Jones, qui est là pour sa chronique aujourd'hui. Vous allez nous parler musique, Yvan?
Je continue sur l'élan que j'ai pris la semaine dernière, parce que moi, j'ai fait partie d'une chorale à un moment donné dans ma vie. Et c'est une forme d'activité physique. C'est une forme importante d'activité physique, la respiration en particulier. Et dans ce cas-ci, c'est un article qui date d'un an environ, là, c'était au mois d'août de l'année dernière. C'est une chorale bien spéciale. La semaine dernière, j'ai parlé de difficultés pulmonaires. Cette fois-ci, je vous parle de maladie d'Alzheimer. Et je prépare toujours mes lectures en allant voir un peu ailleurs qu'est-ce qui s'est passé autour de cet événement-là. Je vais vous en parler des produits de cette chorale-là et Kleenex est demandé.
Ah oui? Fait de la publicité pour Kleenex?
Pour tout mouchoir, que ce soit Kleenex ou en tissu ou n'importe comment. Mais je défie les gens d'aller voir des choses qui ont un lien avec cette chorale-là et garder l'œil complètement fait.
À tout de suite, Yvan, avec notre boîte de mouchoirs. À la une de la presse plus, que la fraise du Québec s'élève. Les agriculteurs d'ici goûtent aux extrêmes météorologiques. C'est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la culture hors sol, un mouvement en pleine ascension qui porte ses fruits. C'est un texte de William Thériault. En résumé, on parle de culture de la fraise hors sol où les plants sont surélevés à hauteur d'homme et protégés sous des abris et qui est appelé à se développer rapidement au Québec, selon le producteur Guy Pouliot, pionnier de cette technique. D'ici 3 à 5 ans, la moitié des fraises québécoises pourraient être cultivées de cette façon. Cette méthode offre plusieurs avantages. Elle augmente considérablement les rendements, facilite la récolte, améliore la qualité et la conservation des fruits, tout en protégeant les cultures contre les effets des changements climatiques comme les pluies torrentielles, les vagues de chaleur, les gels et certaines maladies. Toujours à la une de la presse plus, la fin d'un swing imparable. On parle d'Oliver Jones, figure incontournable du jazz montréalais, écrit Alexandre Vigneault. Il est mort, Oliver Jones, mercredi, donc hier, à l'âge de 91 ans. Après plus de 80 ans de carrière, on y reviendra plus tard dans cette émission. Nouveau droit de douane américain, catégorie inusitée, répercussions bien réelles. Et aussi, il est question de la Québécoise Penelope Harvey en 2025. On la voit en train de nager, traverser du lac Saint-Jean. Il faut aimer souffrir. C'est à lire un dossier d'Antoine Paquette, 32 km d'eau glacée, des vagues de près de 2 mètres de hauteur et des courants imprévisibles. La traversée internationale du lac Saint-Jean à la nage ne pardonne pas. La Québécoise Penelope Harvey s'attaquera à cette épreuve pour la troisième et dernière fois samedi. Ses plus grands ennemis, l'hypothermie et la peur, la presse l'a accompagnée dans les derniers mètres de sa préparation pour cette traversée mythique, l'une des épreuves les plus exigeantes au monde. 100 km de nage et 40 heures en piscine chaque semaine, des camps d'entraînement à l'étranger, 6 mois d'entraînement. En parallèle des études en médecine à temps plein, Penelope Harvey s'impose une cadence de vie effrénée lorsqu'elle s'entraîne pour la traversée internationale du lac Saint-Jean. La presse est donc allée prendre le pouls de l'effort titanesque que requiert cette mythique épreuve. Qu'est-ce que ça prend pour réaliser un défi comme celui de traverser le lac Saint-Jean à la nage? Au bout du couloir, Penelope est transparente. Il faut aimer souffrir et beaucoup s'entraîner, dit la nageuse, après plus de 6 mois d'entraînement intensif. C'est une job à temps plein. Et un peu plus loin, on lui pose la question, mais pourquoi endurer cette souffrance durant une demi-année? Et elle répond « Quand je pense aux personnes avec des limitations, ça me motive », explique la nageuse. Des personnes comme son petit frère Charles, qu'elle porte métaphoriquement sur ses épaules tout au long de la traversée du lac Saint-Jean. « Mon petit frère a une déficience intellectuelle sévère, c'est ce qui me pousse à me dépasser. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas les capacités physiques ou mentales d'accomplir un tel exploit. Charles, je le porte avec moi pendant la traversée, même s'il ne sera pas là physiquement. Je sais qu'il pense à moi. À sa façon, j'ai cette opportunité immense d'être dans l'eau et je la prends aussi pour lui, s'émeut Penelope Harvey. » À la une du Devoir, crise de confiance à l'égard du REM, interruption de service, les pannes répétées du réseau express métropolitain ébranlent la confiance des usagers dans le train inauguré il y a 3 ans. Une interruption de service de près de 2 heures vendredi dernier a donné lieu à des scènes de chaos dans une voiture sans climatisation, immobilisée sur la structure haute d'une 12aine de mètres entre la gare centrale et l'île des Sœurs. Les passagers d'un train en panne sur ce segment du REM ont dû descendre sur la voie ferrée et monter dans un autre train avec l'aide jugée insuffisante d'employés de Pulsar, l'entreprise qui exploite le réseau électrique. Des usagers ont dû être hissés à bord par d'autres passagers qui ont donné un coup de main pour l'évacuation. Je peux comprendre qu'il y ait des problèmes mécaniques. Le REM roule depuis seulement 2 ou 3 ans. Mais ce qui est arrivé vendredi, c'est un bris de sécurité, lance Anne-Louise Davidson, professeure au département d'éducation de l'Université Concordia. Autre titre à la une du Devoir, non, Oscar Peter, pas Oscar Peterson, lapsus ici. Oliver Jones n'y est pas, mais on en parle sur le Devoir version numérique, étant donné qu'on a appris sa mort hier autour de 21h30 dans ces eaux-là, avant le téléjournal de 22h. Donc, c'est un petit peu tard pour le journal papier, malgré que le journal de Montréal en fait sa une. Alors, on revient au Devoir. Au bout de la nuit de Montréal, l'anthropologue Julius César McCarry a fait de la nuit son sujet d'étude et son terrain de jeu. Le spécialiste de l'économie de la nuit a choisi Montréal comme point de départ d'une vaste recherche sur les conditions de travail de ses travailleurs, trop souvent oubliés. Le journaliste Benoît Valois-Nadeau l'a accompagné dans l'une de ses marches d'observation dans les rues de la métropole. 320 000, c'est le nombre de Canadiens qui travaillent la nuit selon Statistique Canada. Avez-vous déjà travaillé la nuit, Mathieu?
2 semaines.
2 semaines parce que quoi? Vous avez été congédié ou parce que vous n'en pouviez plus?
Non, c'était un contrat qui a duré 2 semaines.
OK. Moi, j'ai déjà travaillé la nuit aussi et j'ai détesté cela. Mais il y en a pour qui ça se passe bien, mais c'est vraiment difficile. En ce qui me concerne, en tout cas, là, j'étais toujours de mauvaise humeur et toujours fatiguée. Alors, je suis bien contente de travailler 2 jours et je salue et j'admire tous les travailleurs et travailleuses de nuit. Donc, je le disais tantôt, il fait la une du Journal de Montréal, une légende du jazz s'éteint. Oliver Jones et son beau sourire, le pianiste montréalais, est décédé hier à l'âge de 91 ans.
Thank you.
Georgia on my mind, c'était Oliver Stones. Oliver Jones avec Clark Terry.
À ne pas confondre avec le cinéaste, Mathieu.
Chaque fois que je dis Oliver, je vais toujours dire Stones.
Mais c'est bien Jones. Alors, c'est la chronique d'Yvan Deslauriers qui nous parle de chant choral, de maladies cognitives, la musique comme thérapie pour les personnes en déclin neurocognitif, finalement.
Oui, oui, tout à fait. Et dans une expérience, tout ce qu'il y a de plus concret, c'est des gens qui chantent. Alors, c'est un article qui date d'il y a un an environ, je vous en parlais en entrée. Ça a été publié le 24 août 2025, sous la plume d'Isabelle Haché dans la presse, et ça s'appelle « Maladie d'Alzheimer, il chante comme avant ». Quand André Gadebois se rend compte que sa mémoire s'efface, il plonge dans une tristesse infinie. Dans ces moments-là, il s'enferme dans son petit bureau à la maison pour faire jouer des disques de Françoise Hardy et il chante. C'est Diane Latour qui raconte l'histoire d'André parce que c'est aussi la sienne. Ils sont mariés depuis 50 ans. Elle dit On a eu beaucoup de beaux projets ensemble. On a construit une maison, on a eu deux enfants, on a fait des voyages en Gaspésie et dans le bas du fleuve. Il y a quelques années, André a commencé à oublier des petites choses, puis des plus grandes. Peu à peu, la maladie d'Alzheimer lui a volé ses souvenirs, son autonomie, des pans entiers de sa vie. Diane raconte que « Je n'avais plus de projet avec André, mais là, on a un projet commun, la chorale. » Les yeux d'André s'illuminent. La chorale. « J'aime ça chanter, » sourit l'ancien directeur d'école. « Ce sont les scouts qui m'ont appris. » Il raconte à la journaliste les premières pages du livre de sa vie, celle que la maladie n'a pas encore arrachée. Son enfance à Rosemont, le collège des eudistes, sur les bancs duquel il a usé ses fonds de culotte. Autour de nous, les 15 membres de la chorale, tous en déclin neurocognitif plus ou moins avancé, attendent, dans une sorte de léger brouillard, que la magie opère encore une fois. Bientôt, ils se regrouperont pour chanter sous l'œil de leurs proches aidants. Grégory Charles s'installera au piano. Et le temps de quelques chansons, tout le monde oubliera la maladie. C'était à Montréal, sur le plateau de tournage de l'émission Tous en cœur, une série en 8 épisodes qui a été diffusée sur les ondes d'Ami Télé l'automne dernier. L'expérience s'inspire d'un documentaire britannique, Our Dementia Choir, un concept de la BBC racheté par le producteur québécois Sphère Média. Il y a eu des moments de grâce pendant le tournage. Michel, aphasique, est d'abord restée silencieuse, un doigt sur sa bouche, à écouter les autres. Lentement, discrètement, elle a commencé à chanter. Puis, tout d'un coup, elle est allée s'asseoir sur le banc à côté de Grégory Charles et elle s'est mise à jouer du piano. L'animateur en connaît un bout sur la maladie d'Alzheimer, dont ont souffert ses deux parents, et sur le pouvoir de la musique, qui dépasse largement les frontières de la mémoire. Il dit « Ma mère a arrêté de parler presque 3 ans avant son décès. Mais elle a chanté jusqu'à la veille, avec les paroles. » En chantant, les membres de la chorale retrouvent leurs mots perdus. Surtout les mots des chansons qui ont bercé leur jeunesse, gravés dans leur mémoire. « La vie en rose, n'oublie jamais. » C'est ce qu'Isabelle Perrette, professeure de psychologie à l'Université de Montréal et experte en cognition musicale, appelle la mémoire de soi. Elle dit, le temps d'une chanson, les personnes ont accès à leur identité. Ça les réveille, les rend vivants et les humanise. Elle continue en disant, souvent, il suffit de leur présenter la musique de leur jeunesse pour réveiller des souvenirs. Ces souvenirs sont logés dans une région frontale du cerveau, relativement épargnée par l'effet dévastateur de la maladie. Si le chant est la dernière chose qu'on oublie, c'est qu'il révèle de la mémoire, c'est qu'il relève de la mémoire procédurale, un peu comme faire du vélo. Mais ça va plus loin que ça. Grégory Charles a tenu à écrire une nouvelle chanson pour les choristes. Et il dit, à chaque répétition, on ajoute des éléments. Ils la connaissent, ils la chantent. On dirait que la musique met le métabolisme sur un tempo. Comme si toutes les parties du cerveau se mettaient à travailler en même temps sur ce rythme-là. À tout le moins, la musique a de multiples effets thérapeutiques. Bien sûr, elle ne guérit pas la maladie d'Alzheimer, mais elle procure réconfort et bonheur à ceux qui en sont atteints, ce qui déjà n'est vraiment pas rien. Une étude montréalaise a montré que la musique stimulait les régions du cerveau associées au plaisir. À la manière du chocolat et des relations sexuelles, nous dit Mme Peretz. Ça joue sur l'humeur, ça se voit sur les visages. Le chant procure un effet proche de l'extase. On parle de l'Alzheimer, mais ça marche pour tout le monde. Ça met les gens sur un high. On pense que c'est grâce à la libération de dopamine et probablement d'endorphine. Et ce plaisir est décuplé quand les gens font de la musique ensemble. Alors, Isabelle Haché a interviewé Diane Latour, dont on a parlé au début de l'article, pour une première fois en février 2021, pour une chronique sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux Québécois souffrant de la maladie d'Alzheimer. Diane Latour lui avait alors raconté l'histoire de sa grande amie Micheline, nom qui a été changé pour protéger l'identité de la personne. Hébergée en CHSLD, Micheline ne parlait plus, ne souriait plus. Son regard était éteint. Quand la première vague de la pandémie avait frappé au printemps 2020, elle avait contracté la COVID-19 et Diane, son amie, avait souhaité qu'elle meure. La chronique s'intitulait « L'urgence de mourir ». 4 ans plus tard, Micheline respire toujours et Diane nous dit d'une façon un peu désolée, c'est la seule chose qu'elle fait par elle-même, respirer. Voyons, c'est pas une vie, ça. Chaque fois qu'elle lui rend visite au CHSLD, elle a un pincement au cœur. Et chaque fois, elle se dit, c'est pas vrai qu'André va se rendre là. Depuis le 30 octobre dernier, les Québécois ayant reçu un diagnostic d'Alzheimer peuvent présenter une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Mais pour André Gadebois, il est trop tard. Il n'est pas admissible puisqu'il n'est pas en mesure d'accorder son consentement éclairé. Dans ces circonstances, Diane Latour sait trop bien qu'André va, peut-être, se rendre là. Il est déjà en chemin. Elle dit, ce que je trouve le plus dur dans cette maladie, ce n'est pas de répéter. Je peux répéter 100 000 fois la même chose, ça ne me dérange pas. C'est de ne plus avoir de conversation. C'est dur de voir l'homme que tu as aimé ne plus être lui du tout. Mais heureusement, il reste la musique. Pour André et pour les autres membres de cette singulière chorale qui fait du bien, ils ne se sentent bons dans rien, confie Diane, mais là, ils vivent enfin quelque chose où ils se sentent bons. Hmm. Alors, c'était l'article que j'arrive, ils chantent comme avant, sur une chorale bien spéciale relativement à la maladie d'Alzheimer. Et je suis allé voir sur Internet, particulièrement dans le site d'Ami Télé, pour regarder certains épisodes de cette chorale-là. Et il y a des entrevues, entre autres, avec des proches aidants. J'ai l'impression que l'effet de la musique est pas seulement important pour les gens qui sont touchés par la maladie, mais leurs proches aidants aussi.
C'est sûr, oui.
Et il y a eu un épisode spécial qui a été fait aussi en décembre. Ils ont réuni la chorale pour faire une chorale de Noël qui a chanté pendant un des concerts de Grégory Charles. Alors, c'est intéressant de voir l'implication de tout le monde là-dedans. Et ce que j'ai remarqué de particulier, c'est la chanson spéciale que Grégory Charles a composée. C'est vrai que chacun des chanteurs s'en souvient. Puis c'est une chanson toute nouvelle, c'est pas une vieille chanson. Et il la chante avec un grand plaisir. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin.
La magie de la musique, c'est une excellente série. J'ai regardé tous les épisodes, tous en cœur. Et si ça vous tente, c'est disponible sur amiplus.ca. Merci, Yvan.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
J'aime beaucoup Marie-Céleste, la chanson qui s'appelait « La lumière ».
Oui, et qui s'appelle toujours « La lumière ».
Et qui s'appellera « La lumière
». Merci, Mathieu. Et Yvan, vous êtes toujours là maintenant pour les brèves, des suggestions d'endroits où aller pour admirer les Perséides. C'est pas tout de suite là, le spectacle quand même.
Pas tout à fait, mais peut-être un petit peu. Mais vous allez voir dans l'article. Les gens qui me connaissent savent que je pense que les Perséides, c'est une rumeur urbaine, que ça n'existe pas vraiment. Parce que j'ai bien de la... Oui, ben c'est parce que c'est de la mauvaise foi de ma part, là, c'est sûr. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à en voir, même dans des endroits où ça semble être plus facile. Comme là, je m'en vais aux îles de la Madeleine, comme ça m'arrive régulièrement. Puis ça va être dans le temps des Perséides. Fait qu'en principe, je devrais en voir. Mais je joue le Yvan Grognon à ce moment-là, puis j'en vois pas.
C'est un jeu.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a de particulier dans les Perséides 2026 au Québec, c'est que dans la période la plus fertile pour les Perséides, on commence aussi une nouvelle lune. Puis ça tombe le 12 août. Puis une nouvelle lune, c'est qu'on ne voit rien. Il n'y a pas de croissant particulier, rien. C'est comme la lune passe entre le soleil et la Terre, alors on ne la voit pas. Donc, c'est complètement noir. Donc, c'est très propice pour bien voir les étoiles filantes. Alors, cette année, la nouvelle lune tombe pile le 12 août. Donc, aucune interférence lumineuse qui vient du ciel pour observer les Perséides, l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année. La période d'activité des Perséides, c'est pour ça que j'hésitais tantôt quand vous m'avez posé la question, ça s'étend du 17 juillet au 24 août.
Ah bon? Donc, ça serait commencé depuis vendredi dernier.
Techniquement, c'est commencé, oui. Mais le maximum d'intensité, c'est dans la nuit du 12 au 13 août. Et selon la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, le pic devrait survenir vers 22 heures, heure avancée de l'Est, le 12 août. Surtout, la nouvelle lune tombant le même jour, les conditions d'observation s'annoncent idéales sans clarté lunaire pour brouiller le ciel. Donc, demandez-vous pas ce que je vais faire le 12 août à 22 heures aux îles de Madeleine.
Vous allez faire semblant que vous ne voyez pas d'étoiles filantes.
Et les meilleures nuits pour observer le phénomène sont celles du 11 au 14 août. Juste les photos qui sont sur le site, sur la page du site Espace, un site que j'utilise souvent, sont vraiment fantastiques.
Le 12 août, en passant, c'est un mercredi.
Un mercredi, d'accord. Et où est-ce qu'on peut voir ces perséides-là le mieux? Eh bien, évidemment, loin des lumières de la ville. Alors, si vous voulez pousser encore plus à fond l'observation des phénomènes célestes, il y a plusieurs liens qui sont dans cet article-là. Donc, vous pouvez voir quelques sites au Québec pour admirer les étoiles. Je pense que le Mont Mégantic est dans tous ces liens-là, en fait. On vous a également fait une liste des 10 meilleurs endroits pour observer les Perséides au Québec. Et vous pourriez également vous rendre dans l'un des 7 observatoires ou encore planter votre tente dans un camping pour dormir sous les étoiles. Alors, vous allez voir sur le site Espace et vous avez tous les liens pour bien observer cette situation.
Belle suggestion. Je me souviens que je les avais vues, ces étoiles filantes. C'était en fait des pluies d'étoiles filantes lors d'un séjour en camping à Saint-Donat. Et c'est magique.
Oui.
Tout simplement.
C'est comme si on est hors du temps et de l'espace.
Oui.
C'est vraiment spécial. Il y a juste à ajouter un fond musical d'Oliver Jones, puis c'est comme on est près du ciel.
Espace.ca pour avoir toutes les informations. Est-ce que vous serez avec nous la semaine prochaine ou vous nous quittez maintenant?
Non, je vais être avec vous la semaine prochaine, mais j'ai une petite brève rapide aussi que j'avais pas prévue hier quand on s'est écrit. C'est sur le site de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Il y a Radio-Canada qui s'intéresse au vélo tandem. à l'Association des sports. Alors, il y a Mireille Roberge de l'émission Le 15-18 de Radio-Canada qui s'est intéressée à l'activité de vélo tandem offerte par la SAM. Alors, curieuse de mieux comprendre l'expérience vécue parmi autant par les accompagnateurs que par les cyclistes aveugles, elle a elle-même pris part à un essai, les yeux bandés, en compagnie de notre formateur-accompagnateur, Benoît Monette. Alors, il y a une photo où on voit la chose. Cette immersion lui a permis de découvrir concrètement la confiance, la communication et la complicité nécessaires pour pédaler en tandem. Au-delà de l'activité sportive, Mireille Robert s'est également intéressée au vécu des personnes ayant une déficience visuelle, ainsi qu'au rôle important que le sport peut jouer dans leur vie. Le reportage sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada au cours de l'émission le 15-18, là, en fin d'après-midi, la semaine prochaine. Mais au moment de cette infolettre-là, on ne connaissait pas encore le jour exact de diffusion, mais ça sera partagé avec un lien dès qu'il sera disponible pour celles et ceux qui l'auraient manqué en direct.
Parfait. Vous avez déjà pédalé vous-même en tandem, Yvan?
J'ai déjà fait ça, oui. Oui, tout à fait. Et c'est pas banal. Ben, je veux dire, c'est un super de bel exercice. D'un point de vue physique, là, c'est complètement différent que de rouler tout seul. Pour une chose. Le côté communication avec son passager ou sa passagère est essentiel. Alors, on se donne des indications. Alors, par exemple, on démarre dans 1, 2, puis à 3, on pousse sur la pédale, les deux ensemble. Puis, mais une fois que le tandem est bien lancé et que tout va bien, là, on se raconte des histoires. Moi, en avant, évidemment, je raconte ce que je vois, mais la personne en arrière, elle raconte à partir de ce que je lui dis, à partir de bruit, à partir de sensations, et puis là, on a des conversations incroyables.
Ça donne envie. Merci beaucoup, Yvan. Passez une belle semaine.
Merci,
une belle fin de semaine, puis un beau début de semaine prochaine. À jeudi prochain.
Bye.
We Will Love Again, une autre pièce d'Oliver Jones.
Oui, avec de somptueux arrangements. Le pianiste Oliver Jones nous a quittés. On en parle dans tous les journaux. Philippe Renaud, dans Le Devoir, ledevoir.com, écrit « Figure tutélaire du jazz québécois, le pianiste, compositeur et band leader Oliver Jones est décédé mercredi soir à l'âge de 91 ans », ont annoncé ses collaborateurs de la maison de disques Just in Time sur les réseaux sociaux. C'est un virtuose d'une rare élégance qui nous a quittés, ont témoigné des proches au Devoir, et avec lui, un chapitre de l'histoire du jazz montréalais qui se referme. Élève de Daisy Peterson Sweeney, sœur de son ami et mentor Oscar Peterson, le Montréalais né dans la Petite Bourgogne en 1934, a commencé sa carrière dans les années 1960 à titre de chef d'orchestre, d'abord à Miami, puis à Porto Rico, où il s'installera pendant une quinzaine d'années. De retour au Bercail dans les années 1980, il fut le pianiste attitré de la célèbre boîte de jazz Biddles, où il a enregistré son premier album Live at Biddles Jazz and Ribs en 1983, le tout premier à paraître sur la jeune étiquette du producteur Jim West. Si je me souviens bien, c'est en 1982 que nous nous sommes rencontrés, raconte Jim West. Il l'avait vu en trio aux Biddles avec le patron, Charlie, à la contrebasse et Bernard Primo à la batterie, deux autres piliers du jazz québécois. Jim West, lui, a alors proposé de faire un album. Ça l'avait fait rire. J'avais l'air d'avoir 15 ans. Lui en avait plus de 45. Puisqu'il travaillait dans des cabarets, ce genre de proposition, on lui en faisait souvent. Mais j'ai insisté. Je suis sérieux. Je veux vraiment t'enregistrer. On a fait 24 albums ensemble. On a voyagé partout dans le monde. Ça a été incroyable. Oliver fut le détonateur de ma maison de disques. Ce qui m'avait fasciné ce premier soir, c'est de voir une salle bondée de gens de toute génération abonde Jim West. Son talent transcendait les générations. C'était spécial. Les kids aimaient sa musique. Les plus vieux aussi. Le producteur a été séduit par les mêmes attributs pianistiques que possédait Oscar Peterson, sa sensibilité de musicien classique, doublée d'un tranchant jazzistique. Il fusionnait les deux magnifiquement. Parfois, on croyait entendre deux pianistes jouer sur un seul instrument, ça coulait de source. Durant sa carrière de plus de 70 ans, Oliver Jones, pianiste élégant comme son mentor Peterson et personnage affable, aura formé, sinon côtoyé, plusieurs générations de musiciens jazz d'ici et les grands d'ailleurs. J'ai fait des premières parties pour Sarah Vaughan et Tony Bennett. J'ai joué devant la reine d'Angleterre, Nelson Mandela, trois présidents américains, Lyndon Johnson, Richard Nixon et Bill Clinton, des dirigeants du G7, témoignait-il en entrevue avec Le Devoir en 2016 à l'occasion d'un concert au Festival international de jazz de Port-au-Prince. « Pendant les années de Jean Chrétien à Ottawa, je suis un peu devenu l'ambassadeur du jazz et une sorte d'ambassadeur pour le Canada qui faisait de la diplomatie musicale. J'ai été chanceux, oui. » À titre de band leader, ses albums témoignent de son jeu alliant technicalité et sensibilité, à l'image de son maître Oscar Peterson, dans l'ombre duquel il a tracé sa propre voie. Oscar, c'était mon idole, c'était son idole, témoigne Simon Fauteux de Six Médias, qui fut chargé des relations de presse pour le label Just in Time. Il garde un vif souvenir du dernier concert d'Oscar Peterson au Festival international de jazz de Montréal à l'été 2004, 3 ans avant le décès du maître. Oliver Jones était allé le rejoindre sur scène pour interpréter avec lui son classique « Hymn to Freedom », paru en 1963 sur Night Train du Oscar Peterson Trio. Tu le voyais, le petit gars qui jouait avec son idole. Il était fier d'Oscar et il était fier d'être associé à lui. Je me souviendrai de son humilité, de sa bonté, sa grâce, sa gentillesse et son talent, il va sans dire, ajoute Simon Fauteux. Jim West se souvient d'une tournée de l'orchestre d'Oliver Jones sur le continent africain à la fin des années 1980, laquelle avait fait l'objet d'un documentaire de l'Office national du film. Oliver m'avait demandé où il allait jouer. Je lui ai dressé la liste des villes et des salles de concert. La première chose qu'il m'a répondu, c'est « Tout ça est très bien, mais j'aimerais que tu organises un concert gratuit pour les enfants dans chacune des villes où on s'arrêtera. » Et on l'a fait, en Égypte, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, etc. C'était quelqu'un de spécial comme ça, Oliver. Parmi ses nombreuses distinctions, M. Jones fut fait officier de l'Ordre du Canada en 1993, chevalier de l'Ordre national du Québec l'année suivante, citoyen d'honneur de la Ville de Montréal en 2014 et fut enfin intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2023. Le Festival international de jazz de Montréal, qu'il a accompagné pendant plus de 40 ans, a créé en 2019 un prix portant son nom, décerné plus tôt ce mois-ci au chanteur Najib Fenaoui. Le festival avait rendu hommage à M. Jones en 2024, quelques mois avant son 90e anniversaire. Thank you.
C'était la pièce Josie's Blues. C'était Oliver Jones avec Josie Adams.
Des syndiqués de métro saccagent un bureau. C'est dans la presse d'aujourd'hui. Des membres du syndicat des travailleurs et travailleuses des épiciers unis Métro Richelieu, affiliés à la CSN, sont mêlés à un nouvel épisode de vandalisme, d'intimidation et d'intrusion en marge du conflit de travail chez Métro. Cette fois-ci, c'est le bureau de l'exploitant d'un centre d'appel situé dans la place Bonaventure au centre-ville de Montréal qui a été saccagé. IO Solutions, qui offre des services à différents clients, dont Métro, se dit à son tour victime collatérale du conflit opposant l'épicier montréalais à ses salariés en grève depuis 4 mois. Une centaine de personnes identifiées aux couleurs du syndicat des travailleurs et travailleuses des épiciers unis Métro Richelieu de la Fédération du commerce et de la Confédération des syndicats nationaux se sont présentées au centre d'appel de la place Bonaventure le 8 juillet. C'est ce qu'on peut lire dans une demande d'injonction obtenue par la presse dans laquelle IO Solutions demande à la Cour d'empêcher les syndiqués de se présenter de nouveau dans ses bureaux. L'injonction a été accordée. Il est précisé que plusieurs individus avaient des pancartes sur lesquelles l'expression « IO Solutions SCAB » était imprimée. Les manifestants ont pu entrer, dans le centre d'appel en bousculant violemment le gardien de sécurité avant d'insulter les employés sur place et de les menacer de revenir, lit-on dans le document. Ces individus ont vandalisé et brisé du matériel, notamment des claviers, des chaises et des écrans d'ordinateur. Ils ont renversé une table dans l'entrée et ont marché dessus. Ils ont tapé sur différentes surfaces, notamment avec des claviers. Ils ont renversé un grand seau d'eau de mop, répandant ainsi de l'eau en grande quantité dans l'entrée. Ils ont arraché des documents accrochés au mur et ils les ont lancés par terre. Ils ont renversé des chaises de bureau. Ils ont débranché les outils informatiques de plusieurs postes de travail. Ils ont fouillé dans des classeurs et en ont sorti des documents pour les répandre. Ils ont répandu par terre des cartes cadeaux « Moi » appartenant à Métro. Environ 45 employés d'IO Solutions travaillaient au centre d'appel lorsque l'intrusion a eu lieu. Restez avec nous, une chanson de Marie-Pierre Arthur et une entrevue avec Catherine Lafrance.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Pourquoi je me perds?
L'autre hémisphère, une chanson de Marie-Pierre Arthur.
Ouais, une finale qui nous met dans l'ambiance du roman policier L'été de tous les lieux, une enquête de Michel Duquesne, écrite par Catherine Lafrance, autrice, journaliste également. Bonjour Catherine.
Bonjour Hélène.
Ça me fait très plaisir de vous accueillir de nouveau parce que vous êtes déjà venue en entrevue pour parler d'une autre enquête de Michel Duquesne.
Oui, deux ou trois fois.
Alors Catherine, votre nouveau roman connaît beaucoup de succès là, depuis sa sortie. Je suis très heureuse pour vous.
C'est très gentil. Oui, je dois dire que ça va bien. Il monte dans les palmarès des ventes et on en parle. Et ça, évidemment, pour un auteur, c'est extraordinaire.
Oui.
On en parle. Je me considère privilégiée parce que ce n'est pas tous les auteurs qui ont cette chance-là. Là. Mm-hmm. Moi, je vois là, ça un peu débouler. Cette semaine en particulier, peut-être. Il y a plusieurs articles. Il y a un blog français, Le Monde du polar, spécialisé en polar, qui en a parlé en long et en large. Alors ça fait, de un, ça fait vraiment plaisir. Et de deux, c'est efficace parce que ça fait connaître le livre et la série, parce que c'est le quatrième tome d'une série.
Oui, une série qui est loin d'être finie, j'imagine.
Qui n'est pas finie. Non. Ça, c'est sûr qu'il y en aura un autre.
Alors, ce nouveau roman, L'été de tous les feux, titre absolument brûlant d'actualité, sans vouloir faire de jeu de mots.
Ça, on peut dire mais... ça. Je ne suis pas une visionnaire, là. Mais je fais référence au feu de 2023, oui. Mais évidemment, les incendies, ça se répète cette année. Et il ne faut pas être, c'est pas très, très difficile de voir un peu à l'avance que les étés sont devenus d'une saison propice à des catastrophes. Là. Oui. Et c'est ce qui arrive.
Et qu'est-ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les dirigeants n'ont pas l'air à voir la gravité de la situation.
Quand le feu survient, il est un peu tard. Parce que là, on fait tout ce qu'on fait, c'est contrôler puis essayer de sauver le plus de villes, de villages, de personnes, de maisons et de forêts possibles. Mais dans les faits, le problème, il faut le traiter en amont.
Oui. Alors, si comme on tout problème, en amont, finalement.
Ben, finalement, hein, ça ne serait que jamais tout seul.
Non. Alors, ce roman-là, nous plonge dans les incendies de forêt qui ont marqué le Québec en 2023. Et est-ce que vous vous êtes dit, il y a un roman à écrire là-dessus. Comment c'est arrivé l'idée de ce roman policier? On dit-tu roman policier, polar?
Oui, roman policier, polar, oui, tout à fait. On dit roman policier, même si mon personnage principal, mon enquêteur, n'est pas un policier. Et je vais vous faire la réponse que je fais systématiquement, qui est vraiment la réponse la plus, probablement la pire que je puisse donner.
Ah oui?
C'est « je ne le sais pas ». Je ne sais pas comment les idées... Je sais rarement comment les idées m'arrivent. Les idées m'arrivent d'un coup. Peut-être parce que c'est un peu dans l'air du temps. Évidemment, en 23, ça m'avait fasciné de voir les forêts brûler. C'est un peu dans l'air du temps. C'est un peu quelque chose de préoccupant, évidemment. Donc, c'est comme attraper le rhume, là. C'est quelque part dans l'air. J'attrape ce virus qui est une idée. Puis là, ça se développe. Et j'en attrape plusieurs des idées comme ça. Et je vois laquelle je vis avec dans ma tête, toutes ces idées. Et là, je vois laquelle reste, laquelle continue à m'habiter, laquelle se développe. Et c'est celle-là que je vais écrire. Donc, je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment du départ, mais je peux vous dire que dès que j'ai senti qu'il y avait un sujet là, là, les idées ont commencé à arriver dans ma tête et j'ai vu des personnages, à part mes personnages récurrents, évidemment. Donc, les personnages secondaire se développer, notamment le fameux pompier qui perd la vie, là, mais je peux le dire parce que c'est dès le début. Donc ça, c'est arrivé très, très tôt là, dans mon processus. Donc je me suis dit, OK, il y a une histoire. Alors après, quand c'est la même chose, toujours la même démarche quand je commence un roman, je me dis toujours, OK, j'ai mon histoire, je sais comment je vais la raconter. Maintenant, il faut que je trouve pourquoi je veux raconter cette histoire-là. C'est pas tout de raconter une histoire.
Ça prend une raison, un objectif.
Raison. Oui, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on va en dire. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi cette histoire-là? Et je me suis dit tout simplement parce que les feux de 2023 vont se répéter, parce qu'il y en aura de plus en plus, parce que ça va rester un sujet d'actualité peut-être tout le temps maintenant.
Jusqu'à temps qu'on s'éteigne pour vrai,
exactement.
Au complet.
Et on peut dire ça. Alors voilà. Donc, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je sais que des épisodes comme celui de 2023, il y en aura d'autres ici, ailleurs. Et il y en a cette année, beaucoup en Ontario, il y en a en Europe.
On en parle à tous les jours.
Oui, et les forêts sont dévastées. Et certains villages, parce que là, on a vu dans le nord de l'Ontario, il y a des villages qui ont été rasés.
Oui.
Alors, c'est,
des morts c'est, aussi, oui. Des victimes. Oui. Et Catherine, est-ce que vous avez fait appel à la SOPFEU, qui est la Société de protection des forêts contre le feu, pour comprendre le feu, son comportement, pour que le contexte soit crédible? Parce qu'il est crédible quand on vous lit, j'avais l'impression que j'étais devant une experte, là.
Je suis loin d'être une experte. Mais je n'ai pas fait d'entrevue avec la SOPFEU parce que quand on a affaire à des organismes comme la SOPFEU, c'est extraordinaire parce que tout est documenté. Donc, il faut aller chercher l'information. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allée chercher l'information sur la SOPFEU, dans des rapports, dans des études.
La journaliste a fait son travail.
La journaliste a fait son travail et tout était accessible.
Ah oui.
Et j'ai réalisé à un moment donné que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour créer quelque chose de crédible. Mm-hmm. Parce que des entrevues, j'en fais régulièrement, là, notamment pour, surtout, je dirais, pour mon deuxième roman, le deuxième de la série, en fait, sur les pharmacies, les produits pharmaceutiques, les gens qui ont des chirurgies cardiaques. Ça, là, il fallait absolument que je fasse une entrevue. Et j'ai été chanceuse parce qu'un cardiologue a accepté de me donner une longue entrevue d'au moins une demi-heure. Et il m'a donné toutes les informations.
Parler de Le Dernier Souffle et le plus lourd,
exactement.
Paru en 2023.
Oui. Mais dans ce cas-ci, j'avais vraiment tout. Tout est écrit sur les feux. Tout est documenté pendant... Après, on a des rapports d'étape. Il y a tout le fonctionnement de la SOPFEU. On a accès à ces informations-là. Alors, c'est extraordinaire. Donc j'ai eu accès à tout ça.
Est-ce que vous aviez l'impression d'apprendre plein de choses en lisant sur les feux, les incendies, la réalité aussi des gens qui essaient de combattre les feux?
On apprend énormément chaque fois qu'on fait des recherches. Alors oui, j'ai appris beaucoup sur ces gens-là, sur ce qui les motive, sur la façon dont ils travaillent. J'ai fait appel aussi à mon expérience parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été journaliste, je suis encore dans ma tête.
Ou on peut l'être, j'imagine que journaliste un jour.
Oui, parce que ça devient...
Pas un défaut.
Non, je pense pas. Ça devient des réflexes là, dans la recherche notamment. Mais je me rappelle que j'avais couvert, il y a des décennies, de 20 ans, je pense, de ça, des incendies à Mont-Laurier, apparents, en fait, dans un petit village dans le nord du Québec.
Oui, oui.
Les gens avaient été évacués et les journalistes avaient pu se rendre jusqu'à Mont-Laurier. Donc, moi, je faisais partie de cette cohorte de journalistes qui étaient à Mont-Laurier et ne pouvaient pas aller plus loin. Mais
Parce que c'était trop dangereux.
C'était trop dangereux. Ouais. Mais les gens qui arrivaient de parents, et je me rappelle de ça comme c'était hier, ils descendaient des petits avions là, que la SOPFEU avait et la Croix-Rouge avait nolisé pour eux. La Croix-Rouge avait mis sur pied des refuges. Et ces gens-là, quand les portes des avions s'ouvraient et qu'ils descendaient, qui arrivaient vers nous, les journalistes, ils sentaient le feu.
Ah oui.
L'odeur était partout dans leurs vêtements, la fumée sur leur peau. Et ils traînaient ça. Et ça m'avait marqué.
Je comprends.
Donc, tout ce qui est... Tout l'aspect...
Parce qu'on le ressent, on la sent, l'odeur aussi.
Absolument.
En vous lisant. Oui.
Je suis contente d'entendre ça, tant mieux, parce que c'est tellement prenant, l'odeur du feu comme ça. Et donc, toute la partie refuge, mise sur pied des refuges, comment ça fonctionne, tout ça, j'ai vu ça de près. Mm-hmm. J'ai regardé plusieurs reportages, notamment Radio-Canada sur 2023, sur où les réfugiés avaient été envoyés, comment on les avait accueillis, comment ça se passait pour les réfugiés, etc. Mais moi, j'ai vu des endroits là, où les gens étaient des réfugiés, les petits, quand je parle des petits litigants, là, puis des couvertures grises, puis ça j'ai vu ça. Ça se passe comme ça.
Alors, ça ne se passe pas par an dans votre roman. Ça se passe à Chibougamau. Ce territoire-là vous a inspiré?
Ce territoire m'a inspiré. Je suis allée il y a 2 ans faire un tour sur la côte nord. Là, on est dans le même type de forêt, hein, parce qu'au Québec, on a la forêt laurentienne, la forêt boréale. On a tous ces types de forêts-là jusqu'au nord, jusqu'à la toundra. Donc, quand on arrive sur la côte nord, on est dans la forêt boréale, parfois même dans la taïga.
Ah oui?
Oui, il y a des endroits où c'est carrément la taïga. Donc, c'est un territoire que je connaissais un peu, je vous dirais, je suis pas une experte de ce territoire, mais je le connaissais un peu. Et je le trouve fascinant parce que c'est chez nous, mais on le connaît peu et on en parle peu. Et ça, c'est dommage. On parle peu de nos régions dans la littérature, dans les films, etc. Donc, j'avais envie de mettre ça de l'avant. Et dans les faits, il y a eu des incendies en 2023 dans cette région-là, notamment à Chappé, qui est tout près de Chibougamau.
Et il y a les gens qui sont responsables justement de faire évacuer la population qui ont quand même, c'est une lourde responsabilité sur leurs épaules. On pense à la mairesse fictive de votre roman qui doit peser le pour et le contre. On n'aimerait pas nécessairement être à sa place.
Non, parce que tout pour elle sera une mauvaise décision. Donc,
ah oui.
Parce qu'elle peut juste se tromper. Donc, sa question à elle, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déclare maintenant? Est-ce que j'envoie une ordre d'évacuation maintenant? Si le feu touche pas la ville, les gens vont tellement m'en vouloir. Est-ce que j'attends? Mais là, ça va devenir dangereux. S'il y a des blessés et des morts, les gens vont m'en vouloir. Fait que je serai pas réélue. Alors, c'est son dilemme.
Oui, tout à fait. C'est un problème insoluble. Là, mais
insoluble.
Elle va trancher à un moment donné quand même. Alors, j'arrête pas de faire des jeux de mots, mais c'est malgré moi. Là, vous avez plusieurs marrons sur le feu dans ce roman-là. Il y a plusieurs fils narratifs, l'enquête policière, la catastrophe naturelle, mais aussi il y a des drames plus personnels, plus intimes. Je me demandais, Catherine, si, je suis toujours avec Catherine Lafrance en passant, si vous aviez un plan précis ou si vous vous laissiez porter par le récit, parce que tantôt vous parliez de votre idée en tête. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec un stylo puis un papier, avec votre ordinateur? Comment ça fonctionne là?
Avec mon ordinateur, mais oui, je fais des plans précis. Il existe aujourd'hui des logiciels très, très, très bien organisés d'aide à d'aide à la rédaction, si on veut, là, qui sont des logiciels dans lesquels on peut faire des plans détaillés avec des espèces de fiches de personnages. C'est très bien fait. Donc, visuellement, c'est intéressant parce qu'on voit là, très facilement nos personnages, l'organigramme, etc., qui connaît qui dit quoi à qui. Parce que ça, c'est important quand on écrit un polar.
Il faut que ça soit raccord.
Il faut que ça soit raccord, comme on dit. Il faut qu'on sache quels sont les indices qu'on veut donner au lecteur. Quels sont les indices que l'enquêteur obtient, comment, par qui et quand? Et qu'est-ce qu'il en fait? Donc, tout ça, c'est impossible de retenir, en tout cas pas pour moi, je peux pas retenir tout ça dans ma petite tête. Alors oui, je fais des plans détaillés. Et je fais aussi, j'ai vraiment tout un dossier recherche là, dans lequel je compile toutes mes informations, mes liens, vers où aller. Je mets des photos aussi parce que les photos aide parfois à comprendre et à voir.
Des photos de qui, de quoi?
Dans ce cas-ci, j'avais des photos de véhicules brûlés, j'avais des photos de forêts brûlées, j'avais des photos de forêts après les feux, les cendres. Parce qu'il fallait que je décrive aussi à un moment donné, quand les feux sont passés, qu'est-ce que mon enquêteur va trouver s'il se rend sur les lieux où il y a eu un feu?
Ouais.
Ça va être quoi? Ça va être des cendres, des arbres complètement brûlés, des arbres à moitié brûlés. Est-ce qu'il y a, par exemple, quand on a des photos des incendies, des vraies photos, je parle là, pas des affaires truquées, là, des vraies photos prises justement par des organismes comme la SOPFEU ou autre, la police des fois, bien, on voit qu'il y a des espèces d'endroits où les flammes ne vont pas. Parce qu'un feu, c'est pas comme un mur droit.
Non.
Ça avance de façon inégale.
Puis quelquefois, on le voit pas, mais c'est là quand même, là, dans
exactement.
Le sol. Ça bouillonne par en dessous.
Ça bouillonne, ça peut aller sous terre, les flammes. Et c'est là où les gens peuvent se faire piéger. Parce qu'ils peuvent être dans un endroit où ils pensent que ça va aller, qu'ils sont OK parce qu'il n'y a pas de feu, mais le feu les entoure, mais ils ne peuvent pas le voir. On peut le voir des airs, par exemple, mais eux, de là où ils sont, ne peuvent pas le voir. Et ça, je savais que je voulais jouer là-dessus parce que c'est étouffant, parce qu'on sent le danger.
Mm-hmm.
Je voulais qu'on sente le danger. Je voulais qu'on sente la proximité des flammes.
Oui, on le sent pour certains personnages. Il y en a qui se font prendre carrément par le feu ou sinon par des humains qui sont mal intentionnés. Le journaliste d'enquête, Michel Duquesne, comment vous le trouvez? Est-ce que vous le trouvez courageux? Comment
téméraire.
Vous le décrivez?
Je le trouve téméraire. Moi, dans ma vie de journaliste, j'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Je connais peu de journalistes qui ont fait ça, sauf peut-être les journalistes qui couvrent les guerres, par exemple. Ça, oui, là.
Mais au début, sinon, ça n'étend pas trop, lui, d'aller couvrir les feux.
Non.
Mais c'est quand il y a quelqu'un, une victime.
Oui. Michel Duquesne, c'est quelqu'un qui va toujours défendre les victimes. C'est quelqu'un qui veut toujours chercher à faire la lumière sur les événements. Donc, il se placera toujours du côté des ce qu'on appelle les perdants. C'est pas quelqu'un qui défend les riches et les puissants. Au contraire, c'est quelqu'un qui s'attaque aux institutions quand les institutions ne font pas leur job de défendre le citoyen. Alors là, dans ce cas-ci, c'est pas les institutions le problème, c'est le feu, mais ça devient son ennemi personnel, le feu. Et il y va justement parce que, oui, ça lui semble intéressant, il peut pas résister, là. C'est quand même une grosse nouvelle. C'est un journaliste. Je sais ce que c'est. On veut aller là où ça se passe. On veut aller au front. C'est dans l'ADN du journaliste de vouloir ça. Et aussi, ben, son patron, qu'il aime beaucoup, qui est un ami, lui demande. Donc, il ne veut pas lui dire non. Alors, pour toutes ces raisons, il se dit « Ah, je pars ». Même s'il y a un prix à payer parce que, évidemment, sa conjointe reste à la maison avec les trois enfants au moment où elle est avocate, au moment où elle a un gros procès sur les bras. Elle ne sera pas contente. Et on la comprend.
On la comprend très bien. Donc, au risque de perdre cette femme-là,
Oui, qui est la femme de sa vie.
Oui. Il y a quand même un petit kick pour quelqu'un d'autre, là.
Oui, mais, si, mais il lutte contre ça.
Oui, oui. Mais Odile, il l'a pour dans son cœur, c'est sa conjointe.
Oui.
Alors, vous l'avez dit tantôt, Catherine Duquesne a encore des enquêtes devant lui.
Oui.
Vous avez encore des univers à explorer.
Oui, je peux vous dire que le plan du cinquième est fait grande partie. Je vais encore travailler là-dessus. J'ai pas fait dans le détail, en grande partie. Et le cinquième va répondre à bien des questions. Qu'est-ce qui arrive avec Odile? Qu'est-ce qui arrive avec le couple Odile-Michel Duquesne? Donc ça, à un moment donné, il faut que je boucle ça, là. Donc, je vais le booker. Et qu'est-ce qui arrive avec le demi-frère de Michel? Donc, ceux
Jacob.
Qui ont lu les... Oui, Jacob. Ceux qui ont lu les premiers romans le savent.
Pas très sympathique, ce Jacob-là.
Mystérieux.
Ouais, ouais.
Alors, c'est le frère... En fait, c'est le deuxième fils que sa mère a eu. Michel Duquesne l'a découvert sur le tard et Jacob est mêlé à la vie d'Odile sans qu'Odile l'ait voulu. Elle ne l'aime pas du tout. Alors, est-ce que Michel devra choisir entre Odile et Jacob?
Oui, ça ressemble à ça, en tout cas, dans l'été de tous les feux. Est-ce qu'il faut lire les autres enquêtes pour bien suivre? J'ai l'impression... Parce que
On me dit que non, que ce n'est pas nécessaire.
Moi, je dis ça.
Bon, bien, parfait. Ben, ça va être ça.
Ouais.
Moi, je dis que ça fait une lecture plus agréable, mais ce n'est pas obligatoire.
Oui. Puis aussi, vous faites des mises en contexte.
Oui,
là.
Oui, tout à fait.
Les catastrophes naturelles révèlent souvent le meilleur et parfois le pire des êtres humains. Est-ce que cette vérité-là vous intéressait,
oui,
Catherine?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense justement aux pompiers, qui sont des gens immensément courageux, mais immensément courageux.
Ils risquent leur vie
ils
à chaque
leur
instant.
Vie. Oui, pour nous, pour nous sauver.
Oui.
Moi, j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là. Mais je pense aussi aux gens qui choisissent, par exemple, de ne pas écouter les autorités quand on leur dit qu'il faut évacuer, qu'il faut partir, qu'il faut quitter sa maison. J'imagine à quel point ça doit être dur, mais il y a des gens qui choisissent de rester chez eux et parfois, ils payent de leur vie ce choix-là. Et ça me trouble beaucoup. Dans notre société actuellement, on voit de plus en plus ça, des gens qui doutent des autorités en place, qui ne les croient pas, qui sont sceptiques, qui sont cyniques.
Ouais.
Alors, ils préfèrent...
Depuis la COVID, on dirait qu'on a appris à les connaître. Ils se sont montrés, se sont exprimés sans pudeur, sans complexe.
Sans filtre, exactement.
Ouais.
Exactement. Et donc ça arrive. Je ne sais pas si ça arrive de plus en plus souvent. Je peux pas dire, mais je sais que ça arrive. Ça me trouble profondément. Fait que si je peux passer un message, là, si vous êtes dans un petit village encerclé par les flammes et qu'on dit qu'il faut partir, il faut partir.
Et vos deux précédents polars ont été finalistes au prix Saint-Pacôme. L'un d'eux a aussi été remarqué par les Crime Writers of Canada. Bravo.
Merci.
Est-ce que cette reconnaissance change votre manière d'aborder un nouveau roman ou vous tentez d'oublier ces prix-là?
Un peu, parce que ça me conforte. C'est comme une petite tape sur l'épaule. On me dit, bien, t'es dans la bonne direction. T'es sur la bonne voie. Alors je continue.
Oui.
C'est ça que ça me dit.
Toujours dans le même genre.
Toujours dans le même genre, oui, et avec la même série. J'ai d'autres idées, là. J'ai d'autres projets dans mes cartons. Qui sont un peu hors série, qui sont différents. Bon, mais je ne veux pas en parler parce que là, ce n'est pas sur le point de se réaliser. On m'a approché aussi pour écrire des nouvelles dans des collectifs de nouvelles.
Oui, vous l'avez déjà fait.
Je l'avais déjà fait. Là, il y en a deux qui sont en production, disons. Et ça me permet de voir autre chose. Mais, et c'est pour ça que je suis très, très, très contente de voir que les gens semblent aimer ce tome-là parce que j'ai travaillé un peu différemment. J'ai vraiment travaillé sur la psychologie des personnages. Et quand on me dit qu'on aime ça, bien, ça m'encourage à continuer. C'est la même chose quand on est finaliste pour un prix ou quand on gagne un prix, bien, ça encourage à continuer sur cette voie et à essayer d'aller plus loin et plus en profondeur.
Mm-hmm. Donc, un bel encouragement puis une motivation supplémentaire. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout dans le métier d'écrire, Catherine Lafrance?
Ah, créer quelque chose, laisser quelque chose, trouver le moyen de prendre les idées qui sont dans ma tête, de les mettre sur papier, que quelqu'un les lise et que ça aille dans sa tête. Ça, pour moi, c'est magique. Je ne suis pas sûre de comprendre tout ce phénomène, mais quand je vois ou quand j'entends des gens qui me disent « Ah, ben moi, j'ai ressenti telle chose, j'ai compris telle chose » et que je vois que c'est exactement ce que je voulais qu'ils ressentent, c'est fantastique. Alors ça, c'est peut-être la plus belle partie. Mais vraiment, je ne suis pas sûre que je me demande tous les jours ce que j'aime, mais je pense que c'est plus fort que moi écrire de toute façon, maintenant. Et je veux faire ça jusqu'à
votre dernier souffle.
Jusqu'à mon dernier souffle, si je peux.
Une vraie passionnée.
Oui.
L'été de tous les feux, c'est à lire. Il faut avoir le temps, là, parce que quand on commence, on ne peut plus arrêter.
J'espère.
Et c'est une enquête de Michel Duquesne par Catherine Lafrance et c'est publié chez Druide. Merci, Catherine, pour ce livre et pour cette entrevue. Puis, bonne continuation. On va se laisser, nous, avec Caravane. Caravane, c'est cette pièce-là, Mathieu, où vous disiez que vous aviez l'impression qu'Oliver Jones avait quatre mains.
Oui.
Oui, Oliver Jones qui nous a quittés.
Merci, alors, Hélène.
Merci, Catherine. Et merci aussi à Oliver Jones. On est émus par son départ, lui qui nous a quittés hier à l'âge de 91 ans. Merci, Mathieu Tessier. Et on se retrouve, nous, mardi. C'est Denis-Martin Chabot qui sera avec vous. Oh non, vous en allez en vacances! Quand est-ce qu'on va se retrouver?
Vers la fin août.
Bon, qu'est-ce que je vais faire?
Vous allez passer un bel été.
Mathieu, belles vacances, super méritées. Merci pour tout, vous êtes un collègue en or.
Merci.